Vous êtes avec SBS French.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Eh bien aujourd'hui, on va parler de stratégie et de stratégie importante pour nos deux pays, la France et l'Australie, avec Benjamin Galeado. Vous êtes délégué interministériel pour l'approvisionnement des matériaux et des minerais stratégiques pour la France. Bonjour déjà.
Oui, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour à tous vos auditeurs et vos auditrices.
Alors, tout est dit à peu près dans le titre, hein, mais c'est un rôle tellement stratégique pour la France et pour l'Australie. À quel point justement, c'est stratégique tout ça pour le gouvernement français.
Alors, d'abord, il faut voir de quoi on parle. On parle de minerais et métaux stratégiques. Les deux termes sont importants parce qu'il s'agit non pas simplement de matières premières, mais c'est de toute une chaîne d'approvisionnement qui permet pour une très large gamme d'industries de disposer des métaux qui servent donc à la réalisation de produits industriels aussi importants que les automobiles, les applications de défense, l'énergie. La quasi-totalité des secteurs industriels sont concernés. Donc c'est évidemment stratégique parce que tout ce qu'on a autour de nous, l'ensemble, j'allais dire, des équipements, que ça soit industriels ou de grande consommation, utilisent des métaux, et de plus en plus de métaux, en tout cas des métaux de plus en plus diversifiés. Et donc, évidemment, c'est important pour l'industrie française, donc c'est important pour le gouvernement français, et c'est important dans notre relation stratégique avec l'Australie, parce que l'Australie est un des pays au monde les plus importants dans cette industrie, pas simplement dans l'industrie minière, mais aussi en aval l'industrie des métaux. Et donc, c'est pour cette raison que quasiment dès ma nomination, donc il y a 2 ans et demi, donc nous avons signé dès juillet 2023 un accord de coopération avec l'Australie et depuis, pour vous donner l'importance, ça fait la 4e fois que je me rends en Australie. L'un des principaux pays que j'ai visité depuis ma nomination.
D'accord, ouais, donc ça veut bien dire que l'Australie est un des acteurs importants. Et c'est vrai qu'en termes de réputation, aujourd'hui en Australie, quand on est ici depuis un petit moment, on sait que ça fait un moment que l'Australie a basé son économie sur l'économie de son sous-sol, en fait. Mais ça, aujourd'hui, c'est super important, je suppose, pour la France, pour l'Europe et également.
Oui, alors, il faut bien distinguer là aussi différentes substances. Donc, évidemment, l'Australie, pour des raisons géologiques, hein, c'est un pays qui dispose d'une très 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 large gamme de ressources minérales qui sont exploitées depuis très longtemps. Alors, il y a plusieurs choses différentes. Il y a, si je prends un exemple, le fer, hein, c'est une des plus grosses industries minières en Australie. Là, le fer, j'allais dire, il y a un approvisionnement mondial qui est assez large. Et d'ailleurs, l'essentiel de la production de fer australienne, pour des raisons pratiques, de logistique, elle va essentiellement en Asie. Et donc là, j'allais dire, le lien, il est pas particulièrement majeur. En revanche, lorsque l'on parle ce qu'on appelle les minéraux critiques ou les métaux critiques, qui sont ceux qui sont utilisés par exemple dans la voiture électrique, le lithium, le nickel, le cobalt, là on est sur des substances qui sont un peu moins disponibles et présentes à travers la planète, sur lesquelles l'Australie est un fournisseur potentiellement extrêmement important. Si je prends le lithium, il y a pas loin de la moitié du lithium mondial qui est produit en Australie, au moins en ce qui concerne l'activité minière. Donc il est clair que du fait de sa géologie extrêmement variée, du fait de ses compétences, de son savoir-faire, l'Australie est un acteur extrêmement important. J'ai cité quelques substances, mais il y en a bien d'autres. On pourrait parler des terres rares, dont on parle beaucoup dans l'actualité. Les terres rares, l'Australie est d'ores et déjà un producteur important. Nous sommes en France un transformateur de terres rares, donc et l'Australie a encore énormément de potentiel devant elle. Et donc voilà, c'est un exemple où l'Australie peut jouer un rôle pas simplement au niveau régional, mais au niveau mondial.
Et à quel point, vous parliez tout à l'heure, vous avez parlé des véhicules électriques, à quel point ça a changé la donne dans les 10 dernières années, la décision européenne d'arrêter de produire des véhicules thermiques après une certaine date, etc. Est-ce que ça a été quelque chose qui a été un détonateur, je suis tenté de dire, de toute une nouvelle série d'investissements qui devait être faite, y compris dans les matériaux et les matières.
Bah oui, très clairement, parce que si vous voulez, la caractéristique finalement du véhicule électrique, c'est que la ressource rare pour un véhicule électrique, c'est pas le carburant qu'on met dedans, parce que ça c'est l'électricité. Et comme vous le savez d'ailleurs, en France, on a une électricité 95% décarbonée, et on est exportateur. Donc vous voyez, pour nous, pour la France, on est en train de substituer une consommation de pétrole qu'on importe. On va utiliser comme carburant l'électricité et donc on fait, on diminue nos dépendances et on améliore notre situation économique. En revanche, pour pouvoir faire les batteries des véhicules électriques, là je parle pas de carburant, mais on a besoin pour fabriquer ces batteries, on a besoin de minéraux. Et on a besoin de lithium, on a besoin de nickel, on a besoin de manganèse, on a besoin de cobalt, on a besoin de graphite. Et ça, donc, c'est là où ça change un peu la donne, c'est que la production mondiale de lithium a besoin d'être multipliée par 10 dans les 10 prochaines années. Donc, c'est pas le cas des autres minéraux. Le fer, on va pas multiplier par 10 la demande de fer. Alors, évidemment, le lithium, on part de beaucoup plus bas, donc les choses ne sont pas comparables. Mais voyez, la dynamique, elle est complètement différente. Et donc, c'est à partir de ce moment-là où finalement, il y a des nouveaux métaux, ou plutôt des métaux dont la consommation va énormément augmenter, métaux qui sont importants pour une transition écologique et finalement aussi pour notre indépendance énergétique. Eh bien, on a à gérer cette question de comment on va produire ces métaux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que notre premier rôle, c'est déjà de regarder si on en a en France. Et en l'occurrence, du lithium, on en a beaucoup en France. Donc, on va évidemment, d'abord et avant tout, produire du lithium en France, mais ça suffira pas pour toute l'Europe, ce qu'on a en France. Il y a d'autres pays, il y a d'autres endroits en Europe où on peut fabriquer du lithium, on peut produire du lithium. Et donc, ça veut dire qu'on aura besoin d'importer une partie de notre lithium, d'où l'importance de l'Australie. Il y a d'autres pays avec lesquels on travaille. Et ça, c'est un des exemples qui vous montre que, effectivement, il y a un changement par rapport à la situation précédente qui fait qu'il y a des nouveaux métaux qui apparaissent, donc des nouveaux besoins, donc des relations à établir et à consolider.
Et ça, c'est une partie de vos rôles aussi, c'est aussi de garder un peu votre attention sur les nouvelles technologies qui arrivent. Vous regardez pas forcément à un an, mais je suppose vous regardez à 5 ans, à 10 ans. Il faut vous tenir au courant de tout ce qui arrive. Parce qu'il y a un impact industriel.
Ah, bien sûr, nous on travaille, on est sur des questions de long terme, hein. On travaille sur des besoins au cours des 20 à 30 prochaines années. Et le cas de toute la transformation liée à la transition énergétique est tout à fait emblématique. Si on regarde un autre exemple dont on n'a pour l'instant pas parlé, qui est le cuivre. Bon. Le cuivre, on va avoir besoin de beaucoup plus de cuivre parce que quand on fait la transition vers l'électricité, hein, moins de gaz, moins de pétrole et plus d'électricité, électricité renouvelable ou nucléaire, électricité décarbonée, ça veut dire qu'on va avoir besoin plus de cuivre. Pourquoi ? Parce qu'il faut faire des lignes de transport de courant, il faut faire des moteurs électriques, et un moteur électrique, c'est essentiellement un bobinage de cuivre. Donc, on va avoir besoin de plus de cuivre. On a du cuivre aujourd'hui, il y a des mines, il y a des développements qui sont possibles, et donc aujourd'hui, on n'a pas de tension énorme sur l'approvisionnement en cuivre. Mais en revanche, si on se projette à 15 ans ou 20 ans, on sait déjà qu'il y a beaucoup de ressources mondiales, beaucoup de mines dont l'activité va diminuer parce que les gisements vont être épuisés. Et donc, il faut développer de nouveaux gisements de cuivre. Et ça, typiquement, c'est quelque chose qui intéresse l'Australie. L'Australie a encore du potentiel dans le domaine du cuivre et donc comment le développer, ça va pas se faire en 5 ans, ça va se faire en 10 ans, en 15 ans. Donc vous voyez, on est vraiment sur du long terme. Et donc comment établir cette relation stratégique pour aider l'Australie à développer sa ressource de cuivre. Quand je dis l'Australie, c'est le gouvernement australien, le gouvernement de chacun des États, parce que comme vous le savez, en Australie, les compétences minières sont celles des États. Hein, par exemple, Western Australia est un État où il y a énormément d'activités minières. Donc, on travaille avec Western Australia. D'ailleurs, j'étais à Perth en juillet. Mais on travaille aussi avec la Nouvelle-Galles du Sud, avec l'Australie du Sud, avec Victoria, enfin avec l'ensemble des États. Pour voir comment on peut développer ça. Et puis surtout, on travaille aussi beaucoup avec les entreprises, parce que au bout du compte, c'est des entreprises françaises et des entreprises australiennes qui vont faire le travail, les gouvernements étant là pour les aider, pour financer les projets et pour mettre toutes les conditions pour que ces projets se développent.
D'accord. Et il y a aussi un point, sûrement on peut parler d'un des points forts de l'Australie par rapport à d'autres pays, par exemple pour les terres rares, etc., c'est la stabilité politique. Il y a d'autres endroits dans le monde comme le Congo où la stabilité politique est beaucoup plus compliquée. Pour vous, pour la planification, c'est sûrement aussi un atout d'avoir un pays qui est relativement stable politiquement.
Alors, je dirais, il y a deux aspects. Il y a celui que vous indiquez, qui est évidemment très important, et puis il y a le fait que l'Australie est un partenaire stratégique. Les deux choses sont importantes, c'est-à-dire que non seulement un État stable, mais un État sur lequel nous avons des partenariats depuis longtemps, et donc un gouvernement sur lequel on sait que la sécurité d'approvisionnement sera bien garantie. Donc évidemment, ces deux aspects sont extrêmement importants. Et c'est une des raisons pour lesquelles, effectivement, dans nos priorités, on a tout de suite mis l'Australie en haut de la pile, si je puis dire.
D'accord. Et les tensions mondiales, quand on voit les tarifs, quand on voit ce qui se passe avec l'Ukraine et la Russie, etc., ça a forcément mis des tensions sur le marché mondial, tout ça.
Oui, alors, les tensions dans le domaine des métaux, elles datent pas d'hier. Hein. Je veux dire, c'est un marché qui est exposé à des cycles, des hauts et des bas, qui peut être exposé aussi à des restrictions ou des politiques de chaque État ou de chaque gouvernement. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Mais il est vrai que les risques ou les contraintes politiques ou géopolitiques augmentent au fur et à mesure, les tensions augmentent. Alors là-dedans, nous, d'abord, ce qu'on essaye de porter comme politique, c'est, d'un point de vue général, hein, c'est la coopération. C'est-à-dire qu'on considère que dans ce domaine des minerais et métaux, la coopération est supérieure à la compétition. Et si on regarde l'Australie est un fournisseur, je veux dire, qui fournit un nombre important de pays, en particulier en Asie. Donc je pense que c'est aussi dans l'intérêt de l'Australie que le commerce puisse continuer de manière diversifiée. Et donc nous, le message qu'on porte, c'est oui, il y a des tensions, il faut qu'on s'adapte à ces tensions, mais il ne faut pas non plus rentrer dans une logique qui serait celle de la guerre commerciale permanente ou des restrictions qui s'ajoutent les unes aux autres. C'est bon pour personne. Les pays producteurs ont besoin de plusieurs fournisseurs et les pays consommateurs, ont besoin de plusieurs clients et les pays consommateurs ont besoin de plusieurs fournisseurs. C'est comme ça que ça fonctionne bien. Donc finalement, oui, il y a ces tensions, mais l'objectif n'est pas de les accentuer, c'est plutôt à travers la coopération, d'abord de développer les ressources, parce que ce dont on a besoin, c'est de développer les nouvelles ressources. Hein, c'est d'abord ça la priorité, et des ressources, il y en a en Australie, il y en a ailleurs d'ailleurs, elles sont disponibles, mais ça demande beaucoup d'investissement pour les développer. Et donc, pour faire ça, il faut aussi créer un cadre qui soit un cadre commercial le plus ouvert possible. Et donc c'est plutôt ça que nous, on préconise, plutôt qu'un jeu dans lequel chacun serait recroquevillé sur lui-même. Et évidemment, cette politique que j'indique au niveau français, c'est aussi la même politique qui est suivie au niveau européen.
Ouais, je voulais justement y venir là-dessus. Le rôle de la France au sein de l'Europe, ces négociations, ces relations, on peut en dire quoi ?
Alors nous, dans ce domaine-là, on agit évidemment en étroite collaboration et coopération avec l'Europe au sens large. Alors l'Europe, ça veut dire quoi pour vos auditeurs? Parce que ça peut être un concept un peu compliqué. Ça veut dire l'Union européenne, c'est-à-dire l'ensemble des 27 pays et avec la Commission européenne qui est l'acteur, mais c'est aussi les autres pays européens, chacun des États membres, et il y a évidemment dans ce sujet les quelques grands pays industriels européens qui comptent, je pense à l'Allemagne, je pense à l'Italie en particulier, des pays aussi qui sont des pays de tradition minière importante, la Suède, la Finlande, voilà. Donc oui, on a une stratégie européenne coordonnée. On a le plus souvent, quand il faut développer des projets, évidemment, il vaut mieux le faire avec plusieurs pays. Et puis, de toute façon, les chaînes de valeur, c'est pas des chaînes de valeur françaises, c'est des chaînes de valeur européennes. Si je prends les batteries, les usines de batteries qu'on est en train d'installer en France, elles vont pas servir uniquement à l'industrie automobile française. L'usine, par exemple, ACC, qui est dans le nord de la France, c'est une usine qui est une joint venture entre Stellantis et Mercedes. Donc, cette usine de batteries produira des batteries pour Stellantis et pour Mercedes, et peut-être pour d'autres, d'ailleurs. Donc, vous voyez bien, dans cet exemple, ça n'a pas de sens de raisonner purement franco-français. C'est évidemment Nous, on fait le maximum pour développer un certain nombre de projets en France, mais ces projets, ils servent l'ensemble de la chaîne de valeur européenne. Et à contrario, vous pouvez avoir, par exemple, un industriel qui va faire venir du lithium qui va subir une première étape de transformation en Allemagne et qui ensuite viendra en France. Donc, vous voyez, ça n'a pas de sens de raisonner là-dessus en franco-français. C'est pour ça que, bien sûr, la France joue son rôle. On joue notre rôle dans la relation diplomatique forte qu'on a avec l'Australie. On joue notre rôle dans le fait qu'on est un des grands pays industriels et donc on s'est mobilisé sur ce sujet des minerais et métaux critiques, mais on le fait, j'allais dire, vraiment en très étroite coopération avec nos collègues européens. Et c'est d'ailleurs ce que nos partenaires australiens demandent. Eux, c'est important pour eux de voir que l'Europe est unie et c'est le cas.
Ce qui est intéressant, et juste pour conclure là-dessus, c'est qu'on s'aperçoit, et merci d'avoir éclairci beaucoup de points dans cet entretien, parce que on s'aperçoit que il y a eu un accroc avec les fameux sous-marins et la crise des sous-marins entre la France et l'Australie, mais aujourd'hui ça continue comme ça devrait l'être, et cet accroc, il est presque derrière nous, et la relation entre la France et l'Australie, elle est toujours quand même globalement au beau fixe sur plein de points, et notamment sur les matériaux stratégiques.
Non, mais vous savez, la relation entre la France et l'Australie, elle est très forte depuis très longtemps. Enfin, je veux dire, c'est une relation stratégique. La France est une puissance du Pacifique, hein. On a des territoires français dans le Pacifique. Ne serait-ce que pour cette raison, on est des voisins. On a une relation économique, beaucoup d'entreprises françaises qui sont installées. Et donc, évidemment que cette relation, elle est solide. Et dans tous les domaines, et donc on souhaite qu'elle continue à se développer. Et on a j'allais dire, un partenariat qui est très fort. Et le cas des minerais critiques en est un exemple. C'est un sujet qui, probablement, il y a 10 ans, ne figurait pas du tout paradoxalement, ça figurait pas dans l'agenda franco-australien, parce que l'Australie était surtout tournée vers la fourniture de l'Asie, de ses voisins les plus proches. Mais avec tout ce dont on a discuté aujourd'hui, avec ses nouveaux besoins, l'Australie a le souhait d'avoir une relation avec plusieurs partenaires. Et donc c'est un nouveau chapitre qu'on a rajouté dans des relations stratégiques, et c'est un chapitre qui se développe bien, qui prend du temps pour se mettre en œuvre, parce que les sujets miniers, c'est des sujets de longue durée, mais qui a déjà obtenu des résultats très très importants. Et on a beaucoup parlé des relations industrielles, mais il y a aussi des relations scientifiques. On a, par exemple, des chercheurs français qui viennent travailler dans des universités australiennes, et réciproquement. On a des coopérations entre nos services géologiques. On a des coopérations sur l'innovation, parce que il faut toujours améliorer les techniques. L'industrie minière a encore beaucoup de progrès à faire. Et voyez, donc c'est des choses extrêmement extrêmement denses. Il y a des entreprises françaises qui investissent en Australie. Il y a aussi des entreprises australiennes qui sont intéressées par investir en France. Donc voilà, c'est en effet un exemple de notre relation. Et de ce point de vue-là, j'allais dire, elle devient de plus en plus forte, et surtout dans des circonstances compliquées comme celles qu'on peut voir aujourd'hui. Les pays qui partagent des valeurs, qui partagent une certaine manière d'agir, se retrouvent assez naturellement pour travailler ensemble.
Eh bien, merci d'avoir éclairci tout ça pour nous, Monsieur Galezo.
Merci à vous.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/SBS French.